Je vais lire avec vous deux passages de l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 5. Nous lirons une large part de ce chapitre. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabucodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent et il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et fit dire aux sages, « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre et on lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. » Les sages viennent. Personne ne peut lire l'inscription. Et à ce moment-là, la reine-mère dit au roi, « Il y a un homme qui s'appelle Daniel et qui est très intelligent et qui a en lui l'esprit des dieux vivants. Et je te conseille de faire appel à lui. » On fait appel à Daniel et je reprends ma lecture au verset 13. « Aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit, « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda ? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or, on vient de m'annoncer On vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation. Mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. » Alors Daniel prit la parole et dit au roi, « Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nabucodonosor, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devint semblable à celle des bêtes et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes, comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il élève à la royauté qui il veut. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant, tu n'as pas gardé une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple, puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici mot à mot ce qui est écrit là. Alors en araméen, c'est « Mene, mene, tekel, parsin ». Ce sont surtout des noms de monnaie, mais en même temps des unités de mesure, de poids. Il a été compté une mine, un cycle et deux demi-cycles. Et voici l'interprétation. Daniel fait des jeux de mots sur ces termes. Une mine, jeu de mots avec compter en araméen. Dieu a compté les années de ton règne et il y a mis un terme. Un cycle. Tu as été pesé dans la balance et on a trouvé que tu ne faisais pas le poids. Deux demi-cycles. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Voilà la première lecture. J'en fais encore une. Ma deuxième lecture, je la trouve dans le premier livre de Samuel, toujours dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, et il s'agit du cantique d'Anne, la mère de Samuel. Anne, qui a souffert pendant des années de ne pas avoir d'enfant et à qui Dieu a accordé la faveur d'avoir un fils, Samuel. Et voici ce que dit Anne. Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel, oui, grâce à l'Éternel. Mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà briser l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de biens et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre et il le relève. Il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tonnera contre eux, il jugera les confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. Ce matin, je voudrais méditer avec vous mesure de Dieu et mesure des hommes. Il me semble percevoir un paradoxe aujourd'hui. Nous sommes à un moment où tout se mesure, tout se pèse, s'évalue, se compare, se classe, se note. Tout. Les hôtels, les supermarchés, les universités, les cantines, les hôpitaux. Et on parle de toutes choses sous terme de comparaison et de mesure. Et en même temps, on parle de supprimer les notes à l'école. Oh là là, là je m'engage sur un terrain glissant, je suis incompétent, et il y a tellement d'enseignants parmi nous qui seront bien capables de m'éclairer tout à l'heure sur le sujet. Merci. Dès l'enfance, tous les groupes humains se comparent les uns aux autres. Dans tous les groupes humains, les gens font ces comparaisons pour se trouver plus grand, plus beau, plus fort, plus intelligent que le voisin, que le compagnon, que l'autre. Même chez les disciples de Jésus, on a trouvé cette tendance. À un moment donné, ils discutaient entre eux et Jésus leur dit « De quoi vous parliez ?»« Non, c'est rien, Seigneur, c'est rien. » Ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils parlaient pour savoir qui était le plus grand. Nous avons lu le récit du jugement de Dieu sur Belshazzar ou Balthazar, selon la traduction. Compter, peser, diviser. Dieu a compté le nombre des jours de ta vie et il y a mis un terme. Il a pesé la valeur de tes actions. Il a pesé tes œuvres et tu as été trouvé léger. Ou comme disait notre traduction, tu ne fais pas le poids. Ta vie a été trouvée légère. Dieu regarde. Il est attentif à toutes ses créatures. Le psalmiste dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Dieu pèse les cœurs, Dieu évalue les actes. Dieu sait quels sont les critères à mettre en œuvre pour cela. C'est une première affirmation claire de l'Écriture tout au long de la Révélation, qui normalement a des conséquences pour ceux qui entendent cette parole, donc pour nous, sur notre comportement. Comment se situe l'homme devant Dieu sur cette question de la mesure ou des mesures? Par nature, l'être humain se croit seul maître de sa vie, seul responsable de ses actes devant lui-même. C'est la conséquence de la rupture intervenue au jardin d'Éden, de la séparation intervenue entre l'homme et Dieu. Et il suffit de nous regarder. Nous réclamons justice lorsque nous sommes ou lorsque nous nous estimons victimes du mal, de la méchanceté de l'injustice. Mais, à l'opposé, nous cherchons à échapper au regard du juge lorsque nous agissons pour notre propre intérêt, contre le bien, contre la loi. Au psaume 73, là encore, le psalmiste regarde comment font les méchants qui pensent qu'ils peuvent agir à leur guise et qui disent « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Il ne va pas regarder les petits détails des actions de chacun. » Il y a un autre texte aussi, mais dans le Nouveau Testament, qui dit très clairement que chacun ait sa propre mesure, que chacun se mesure à lui-même. C'est l'apôtre Paul. Dans la deuxième aux Corinthiens, il défend son ministère par rapport à des autorités spirituelles dans l'église de Corinthe qui contestaient l'autorité de l'apôtre Paul et qui se présentaient eux-mêmes comme seuls capables d'apporter l'enseignement. Et Paul parle de ceux qui se recommandent eux-mêmes et il dit « La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. » Et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Et l'apôtre Paul ajoute, n'est-ce pas là une preuve de leur folie ? Et puis nous avons encore un élément dans l'Ancien Testament qui nous révèle combien nos mesures sont complètement subjectives et même fausses du fait de cette subjectivité. C'est lorsque dans le sermon sur la montagne, Jésus parle de la façon dont nous voyons les autres et qu'il dit à ceux qui l'écoutent, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» On vous appliquera, dit Dieu, la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Dieu rappelle l'homme à la réalité. L'homme est responsable de ses actes devant Dieu. C'est la leçon qu'avait apprise le roi Nabucodonosor. Et c'est la leçon que n'a pas apprise son fils, le roi Balthazar. Tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Au psaume 62, nous lisons « Les êtres humains ne sont qu'une vapeur, les hommes une déception. S'ils montaient sur une balance, ils seraient à eux tous plus légers qu'une vapeur. » Et dans le livre des Proverbes, « L'homme estime toujours que sa voie est droite, mais celui qui pèse les cœurs, c'est le Seigneur. » Ou, dans une autre traduction, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Le sage de l'Ecclésiaste énonce une leçon à apprendre par le jeune homme. Il lui dit à la fin de son livre, « Réjouis-toi, que ton cœur soit en fête. » Marche selon les désirs de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ou, dans une autre traduction, Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Vu sous un autre angle, nous pourrons dire qu'en réalité, l'homme ne sait pas comment mesurer, en particulier le temps, la longueur de ses jours, la longueur de sa vie. C'est quelque chose qui lui échappe complètement. Et du fait aussi que nous avons du temps une notion, elle aussi, très subjective, et qui dépend beaucoup des circonstances. Suivant ces circonstances, le temps nous paraît long ou court. Quand les souffrances l'accablent, quand le cœur est lourd, le temps paraît long. Jusqu'à quand, Seigneur ? On peut même soupirer vers le terme de sa vie. Psaume 39. Dis-moi, ô Éternel, quand finira ma vie ? Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis éphémère ? Mais il y a aussi, heureusement, les temps du bonheur. Qu'est-ce qu'on fait au temps du bonheur? La Bible dit au temps du bonheur, sois heureux. Et dans un temps de bonheur qu'il a particulièrement apprécié, Lamartine, dans un poème très connu, a dit « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » Petit rappel. Je me souviens mieux des choses d'il y a 50 ans que de celles d'avant-hier, mais enfin. Quand on est épargné par le malheur, quand la prospérité est là, on peut s'abandonner à l'insouciance et croire ou bien que Dieu n'existe pas, ou qu'il ne voit pas nos actes et encore moins nos cœurs. Et on peut être porté à vivre uniquement le présent, sans aucune considération pour l'avenir, sans aucun souci pour un quelconque jugement à venir. C'est le cas bien connu de la parabole du riche. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années, mange, bois et te réjouis. » Point. On pourrait penser que c'est une situation, j'allais presque dire, de neutralité par rapport à Dieu. Mais le texte de Daniel nous l'interdit. Non, c'est du mépris de Dieu que de considérer les choses ainsi. Car Dieu est là, et Dieu connaît, et Dieu juge, et Dieu pèse les cœurs. Tu as été pesé à la balance de Dieu, dit Daniel à Balthazar, et tu as été trouvé léger. Balthazar n'a pas appris la leçon. Nous avons besoin d'apprendre ce que Dieu nous dit. Nous avons besoin de lois, de codes, de références objectives, de justes mesures pour apprécier chaque chose à sa vraie valeur et pour l'appréhender dans sa vraie dimension. Il faut donc parler maintenant de la mesure de Dieu, après avoir évoqué la mesure des hommes. La mesure de Dieu, bien sûr, est d'abord une mesure souveraine, absolue, incontestable, sans recours. Il est le maître souverain. L'homme, sa créature, il est petit devant son créateur. Qui peut contester avec son créateur ? Dit le prophète Jérémie. Même le peuple est comparé à un vase entre les mains du potier. Vous êtes, dit Dieu à son peuple, comme un vase entre les mains du potier qui peut vous façonner comme il l'entend. Et dans le prophète Ésaïe, on a aussi cette parole, la hache se révolte-t-elle contre celui qui la manipule ? Qui peut, par ses inquiétudes, dit un autre texte, ajouter ne serait-ce que quelques instants à la durée de sa vie? Alors là aussi, il y a un genre de jeu, puisqu'il est question de coudée dans l'original. La coudée, c'était 40-50 cm. Personne ne peut se grandir et personne ne peut rallonger le temps de sa vie. Nous sommes donc appelés à reconnaître par la foi le Dieu souverain qui, au-dessus de tout, est attentif aux actions des êtres humains et les évalue. Face à cette réalité, on peut bien sûr être plongé dans la crainte, et la crainte est tout à fait naturelle et compréhensible quand on prend conscience de qui on est devant Dieu. Mais d'un autre côté, nous le savons et nous l'avons dit, et il faut le rappeler, il y a au fond du cœur de tout être humain une exigence de justice et de savoir que Dieu est le juge suprême et final de tout être humain est rassurant. Rassurant par rapport à la justice. Quand le psalmiste, qui a écrit le psaume 73 se pose plein de questions en voyant la prospérité des méchants et l'accablement de bien des fidèles. Il dit « La difficulté a été grande pour moi jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, et que je prenne garde au temps long, au sort final des méchants. » Enseigne-nous, Seigneur, dit Moïse, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Première caractéristique donc de la mesure de Dieu, mesure souveraine. Deuxième caractéristique, mesure compensatrice. Et c'est dans cet objectif que je vous ai lu le cantique d'Anne. Et vous avez entendu dans ce cantique ce que signifie la mesure compensatrice de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu abaisse ceux qui s'élèvent eux-mêmes et Dieu fait remonter de la position humiliée ceux qui sont accablés, qui sont dans la faiblesse, dans la souffrance. Dieu relève et il abaisse. Et Dieu rappelle ici la valeur d'une vraie conscience de qui nous sommes devant Dieu, dans l'humilité qui revient à notre condition humaine. Dieu relève et Dieu abaisse. Mesure compensatrice. Mesure objective aussi. Et là, bien sûr, nous faisons référence rapidement à la loi de Dieu. Parce que lorsqu'il n'y a pas cette référence, nous avons le refrain du livre des juges, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Phrase type des références relatives et subjectives de l'être humain. Mais Dieu amène dans cette humanité dégradée par le péché, par étapes, des corrections. Et la première des corrections, qui sera bien sûr complétée dans le Nouveau Testament par quelque chose de beaucoup plus grand, mais déjà la première des corrections, c'est la loi du talion, qui par rapport à la vengeance apporte déjà une compensation et un critère d'objectivité. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion qui est déjà énoncée dans Exode, après les 10 commandements, dans Exode 21. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, parce que au départ, les choses partaient très mal. Dès que la chute est intervenue, les mecs ont dit « Caïn sera vengé 7 fois » et les mecs 77 fois. « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Première correction pour un peu d'équité, un peu d'objectivité, œil pour œil, dent pour dent. Dieu donne sa loi comme référence objective pour le comportement et la conduite de son peuple et de tout être humain. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et c'est que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Le deuxième terme est aussi un enrichissement considérable de cette notion. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et au bout, que tu marches humblement avec ton Dieu. La loi comme référence. La loi pour Josué, successeur de Moïse. Tu feras comme Moïse, tu auras pour référence la loi. Tu la méditeras tous les jours de ta vie et tu agiras conformément à ses préceptes. Pareil pour le roi, bien plus tard, le roi devra écrire de sa main une loi, le code, et le lire tous les jours de sa vie. Et je vous cite aussi une parole qui, vue dans l'ensemble de l'Écriture, prend pour moi une importance considérable, et surtout à cette époque-là. C'est une parole que nous trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 27 et au verset 25. Il y est dit ceci. Toutes les évaluations, toutes les mesures et toutes les estimations se feront à partir du cycle du sanctuaire. Le cycle du sanctuaire servira de référence à toutes les évaluations, toutes les estimations et toutes les mesures. Ce sont bien sûr les mesures de poids et de prix, les choses à la base. Toutes les mesures se feront d'après le cycle du sanctuaire. C'est d'après ce que Dieu a donné comme référence qu'on trouvera toutes les références pour toutes les bonnes mesures. Reconnaître donc cette nécessité absolue d'une référence objective, d'un critère sûr, incontestable, pour le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Conduis-moi dans tes sentiers. Enseigne-moi ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Je crois qu'à cette parole, on peut ajouter, comme une paraphrase, « Éternel, fais-moi connaître mes voies, pour que je sache où j'en suis. » C'est explicitement d'ailleurs ce que dit effectivement la fin du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. » Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. D'où vient ma force? Où va-t-elle? À quoi sert-elle? Que faisons-nous avec elle? Acceptons donc la mesure de Dieu sur nos vies. Lorsqu'elle nous trouve légers, nous condamne, nous désapprouve dans